Radio Prague, les informations.
Le président tchèque demande des assurances sur le procès de Yulia Tymoshenko, renforcement des effectifs de la police pendant le festival Prague Pride et incendie de Petrova Bouda. Les inspecteurs des monuments historiques veulent que l'hôtel soit reconstruit. Le président tchèque demande l'assurance que le procès de Yulia Tymoshenko ne sera pas politique. Václav Klaus a envoyé ce mardi une lettre dans ce sens à son homologue ukrainien Viktor Yanukovych. L'opposante et ex-premier ministre ukrainienne Yulia Tymoshenko est à nouveau en détention depuis vendredi dernier. Dans sa lettre, M. Klaus a précisé qu'il n'y avait pas de raison de douter de l'impartialité de la justice ukrainienne et de l'indépendance des juges. Mais il dit toutefois souhaiter être rassuré par son homologue. Yulia Tymoshenko est jugée pour abus de pouvoir lors de la signature d'un accord gazier avec la Russie. La toute première marche des fiertés doit se dérouler le 13 août dans le cadre d'un festival de 4 jours du 10 au 14 août en soutien aux gays, lesbiennes, transsexuels et transgenres. La police tchèque a prévu un renforcement de ses effectifs dans les rues de Prague. À cette occasion, les forces de l'ordre n'attendent toutefois pas d'incident majeur. Les organisateurs de la Prague Pride craignent toutefois la présence dans les environs du défilé de manifestants d'extrême droite. La tenue du festival, soutenue par le maire de Prague, a suscité la désapprobation et des déclarations ouvertement homophobe de plusieurs personnalités politiques, dont l'un des plus proches conseillers du président tchèque. La capitale tchèque attend 7000 participants et participantes pour cette toute première marche des fiertés du 13 août. Les inspecteurs des monuments historiques veulent que l'hôtel Petrova Bouda, récemment détruit par un incendie, soit reconstruit à l'identique. Le gérant de la société Snowy Chalet a fait savoir qu'il était prêt à discuter avec les inspecteurs. La Petrova Bouda, située dans les monts des géants, les Krkonoshe, a été ravagée par un incendie début août. Ces trois bâtiments, vieux de près de deux siècles, avaient été classés monuments historiques. L'hôtel ne fonctionnait toutefois plus depuis quelques années à cause des changements fréquents de propriétaires. Et puis la 8e édition du Fresh Film Fest, le festival de films étudiants, se déroulera à Prague du 24 au 28 août. Ce rendez-vous cinéma de l'été proposera des films de Cannes, de la Berlinale et du festival de Sundance et bien d'autres créations étudiantes qui seront projetées au Palais Acropolis, au cinéma Svetozor, dans la salle de l'Institut français de Prague ou encore au théâtre Ponets. Mercredi, l'équipe nationale de football doit rencontrer la Norvège en match amical, son dernier match international avant le début des qualifications pour l'Euro 2012 qui commenceront en septembre. Les Tchèques rencontreront l'équipe norvégienne à Oslo. L'entraîneur Michael Bilek a déclaré qu'il faudrait un bon résultat afin de contribuer à une bonne atmosphère avant le prochain match de qualification contre l'Écosse. Parmi les nouveaux joueurs intégrés dans l'équipe, Marcel Getzoff et Tomáš Pekhardt, les valeurs sûres comme le gardien de but Petr Čech et l'attaquant Milan Baroš seront également de la partie. On finit par un mot de météo. Pas de grands changements côté temps. Mercredi, jour de fête des Vavgenets, Laurent en français. Le temps sera toujours variable et les températures oscilleront entre 15 et 19 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Anna Kubišta pour le bulletin d'information. Le journal du poète tchèque Jan Zabrana remet en cause la version officielle de la mort d'Albert Camus. La nouvelle a été publiée par la presse italienne et nous en parlerons dans un instant. Au sommaire de ce magazine, aussi le partenariat enregistré des couples homosexuels autorisés en République tchèque depuis 5 ans. Dans la rubrique Panorama, vous entendrez la deuxième partie de l'interview de Zuzana Tomanova, interprète du président Václav Havel après la révolution de velours. Albert Camus aurait été assassiné par des agents du KGB. L'accident de la route dont il a été victime en 1960 n'aurait ainsi pas été le fruit d'une défaillance technique de son véhicule, comme le mentionne la version officielle, mais d'une action montée par les services secrets soviétiques. C'est du moins la théorie qu'a développée la semaine dernière Il Corriere della Sera dans un article consacré à la mort de l'écrivain français. Pour étayer sa thèse, le quotidien italien cite un universitaire local qui se bat lui sur le journal personnel de l'écrivain, poète et traducteur tchèque Jan Zabrana. Plus de précisions avec Guillaume Narguet.
L'ordre de liquidation aurait été donné personnellement par le ministre de l'Intérieur Chepilov comme vengeance suite à l'article publié dans Franc-Tireur en mars 1957, dans lequel Camus, à propos des événements en Hongrie, l'attaque lui, personnellement et directement. C'est sur ce passage précis, tiré du journal personnel de Jan Zabrana, journal intitulé « Toute une vie », que Giovanni Catelli, spécialiste italien en études slaves, s'appuie pour affirmer que l'accident de la route qui a coûté la vie à Albert Camus aurait été le résultat d'une action menée par le KGB et commandée par le ministre soviétique Dimitri Chepilov. Ce journal personnel, accompagné de diverses notes autobiographiques de Jan Zabrana, écrivain persécuté sous le régime communiste, a été publié en 2 volumes pour la première fois à Prague en 1992, soit peu de temps après la Révolution. À l'époque, le passage en question sur Camus était resté sans réaction. La veuve de Jan Zabrana, Marie Zabranova, explique pourquoi.
Il existe sans doute 2 raisons à cela. De par son contenu, ce journal a d'abord constitué une surprise au moment de sa publication à Prague. Les gens se sont d'abord intéressés à la position d'un intellectuel pendant la période de normalisation et au grand drame vécu par le poète. Les passages concernant les auteurs étrangers sont, eux, plus ou moins passés inaperçus, comme personne ne s'est vraiment intéressé aux événements politiques qu'ils commentaient. Pourtant, il y en avait beaucoup. Jan Zabrana mentionne ainsi Staline plus de 60 fois, mais tout le monde s'est intéressé aux passages qui concernaient Zabrana, ses amis et ses connaissances, ou les personnes auxquelles du tort aurait été causé.
Dans Toute une vie, dont l'édition retranscrit fidèlement les manuscrits originaux, Jan Zabrana affirme que la personne dont il tient l'information est tout à fait fiable. Reste que, aujourd'hui encore, nul ne sait de qui il s'agit, même si Marie Zabranova, qui connaissait les relations de son mari, a son idée sur la question.
Il parlait très souvent d'Albert Camus car c'était un auteur qui lui était très proche. Jan a lu L'étranger quand il avait 16 ans et il mentionne souvent son nom dans son journal. Il lui portait donc une attention naturelle. Pour ce qui est des informations relatives à sa mort, Jan affirme effectivement qu'il s'agissait d'une source digne de confiance. Personnellement, je sais qu'il entretenait des relations avec plusieurs spécialistes de la langue et de la culture russe, des professeurs qui avait émigré aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Enfin, il reste Jiří Barbaš, un traducteur qui vivait ici en Tchécoslovaquie. Et lorsque j'ai mené ma petite enquête pour cet universitaire italien afin de savoir qui aurait pu fournir cette information concernant Camus, il m'a été dit que Jiří Barbaš est décédé depuis, en savait beaucoup et que cela aurait donc très bien pu être lui. C'est un secret, mais pas complètement, car certaines personnes pensent que c'est lui.
Cet avis n'est cependant pas partagé par les experts. À Paris comme à Prague, à l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires, la majorité d'entre eux reste très sceptique sur la participation du KGB, même si tous reconnaissent qu'Albert Camus irritait profondément les autorités soviétiques par son engagement contre la répression des révoltes à Berlin-Est en 1953 et à Budapest en 1956, ou encore pour avoir pris la défense de l'écrivain russe Boris Pasternak, nommé prix Nobel en 1958, soit 1 an après l'auteur de La Peste ou de L'Étranger. Mais tant que les archives du KGB à Moscou resteront inaccessibles, il sera impossible d'établir si la crevaison du pneu de la voiture qui a entraîné la mort d'Albert Camus porte bien l'empreinte de la fatalité ou celle des services secrets soviétiques.
La ville de Prague se prépare à sa première Gay Pride qui commence ce mercredi. La polémique lancée par l'entourage du président de la République sur la légitimité de la tenue de la manifestation fait quelque peu oublier que depuis 5 ans, les couples homosexuels désireux de vivre en commun en République tchèque peuvent le faire grâce au partenariat enregistré. Et depuis l'instauration de la loi en juillet 2006, près de 1200 couples ont conclu cette forme d'union civile. Hanna Niemeczkova.
Le 1er juillet 2006, premier jour de l'entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregistré, Josef et Karel étaient les premiers homosexuels en République tchèque à officialiser légalement leur union. Depuis, 1180 autres couples, parmi lesquels 350 lesbiens, les ont imités dans leur démarche. Même si la République tchèque a été un des premiers pays post-communistes à adopter le partenariat enregistré, il a néanmoins fallu pas de moins de 5 tentatives avant de le faire adopter par le Parlement. Contrat, le partenariat enregistré garantit le droit de conclure le pacte devant un représentant de l'état civil, le droit à l'information sur l'état de santé du partenaire ou encore la possibilité d'hériter du partenaire défunt. Côté obligations, la loi prévoit une éventuelle prestation compensatoire en cas de dissolution du partenariat. L'adoption des enfants n'est pas autorisée. Iri Hromada était l'un des activistes gays les plus actifs lors de la lutte pour l'adoption de la loi. Il revient sur l'importance du partenariat enregistré pour la communauté homosexuelle tchèque.
L'adoption de la loi en 2006 a été un grand succès, bien sûr, mais je pense que le plus important a été le processus qui a abouti à ce succès. En 1990, quand le mouvement gay a commencé à s'activer en République tchèque, il n'y avait que 10% de la population qui acceptait notre différence. En 2006, l'année de l'adoption du partenariat enregistré, c'était déjà 70%. L'année dernière, on a annoncé que la tolérance avait progressé jusqu'à 75%.
Le taux de dissolution de partenariat est assez bas, à peu près 7,5%, en comparaison avec le taux de divorce des couples hétérosexuels mariés, qui s'élève actuellement à environ 50%. Les homosexuels apparaissent donc comme des partenaires stables. Iri Hromada.
Le faible taux de séparation des couples homosexuels est évidemment très réconfortant. Il est intéressant de constater que les couples de femmes représentent un tiers des partenariats enregistrés, mais aussi la moitié des couples divorcés. En général, les femmes homosexuelles s'enregistrent moins et se séparent plus. Peut-être est-ce l'impossibilité d'adopter un enfant qui est à l'origine de ce phénomène. Pouvoir adopter est très important pour les femmes.
La loi tchèque n'autorise pas les couples homosexuels à adopter un enfant. La situation pose problème, car là où une personne seule peut demander une adoption avant de conclure un partenariat enregistré, les couples enregistrés ne peuvent, eux, plus se porter candidats.
Et dans la rubrique Panorama, deuxième partie aujourd'hui de l'entretien enregistré avec Zuzana Tomanova. Après une passe difficile dans sa carrière d'interprète pendant la normalisation, Zuzana Tomanova devient quelques mois après la révolution de velours l'interprète du nouveau président Václav Havel pour le français. Alexis Rosenzweig lui a d'abord demandé comment elle en était arrivée là.
Panorama.
Panorama.
Au départ, j'étais envoyée par une agence pour le premier, pour la première mission. Et plus tard, bon, il a été content de mes services et il m'a gardée. C'est comme ça. Il a eu confiance en moi.
Vous semblez ne pas le regretter. Vous m'avez dit tout à l'heure hors micro que c'était une des glorieuses périodes de votre vie active.
Ouais. Je garde un souvenir ému et reconnaissant de cette période glorieuse, héroïque dirais-je même. Parce que c'était quelqu'un de formidable qui a toujours tenu une ligne, disons, en faveur du pays. Il a fait énormément de choses pour le bien de mon pays et bon, je ne peux qu'avoir du respect pour lui. Et tout ce qu'il disait, ça valait le coup d'être traduit.
Je crois que dans un documentaire que j'ai vu récemment, on voit les premières visites de politiciens ou de politiciennes même françaises qui défilent à Prague. Il y a notamment Ségolène Royal, toute jeune, et on vous voit dans ce documentaire, alors qui essaie de faire quelques envolées lyriques et de parler peut-être un langage un peu plus littéraire parce qu'elle rencontre le président dramaturge. Ça doit être presque cocasse, des fois, les choses qu'on doit traduire à Václav Havel.
C'est vrai. C'est vrai. Mais lui, il avait, ça je peux peut-être dire, chaque fois qu'il donnait une interview et que je devais la traduire, alors souvent, les questions se répètent, vous le savez, parce que tous les journalistes veulent savoir la même chose, bon. Alors il me disait, mais Madame Tomanova, vous pouvez le dire à ma place, vous le savez mieux que moi maintenant. Bon, ça peut-être je peux le dire.
Vous avez des souvenirs qui sont meilleurs que d'autres, des anecdotes?
Évidemment, mais on n'a pas le droit de les raconter.
Évidemment, puisque c'est des secrets d'État pour certains. Comment ça se passe d'ailleurs au niveau des du secret. Est-ce que c'est à chaque contrat qu'un interprète signe ou c'est sur la durée? Par exemple, quand on est l'interprète officiel de Václav Havel, on a interdiction formelle de publier même après quelque information que ce soit?
C'est tacite, c'est pas quelque chose de... Bon, il y a ce qu'on appelle maintenant l'autorisation de NBU, bon. Avant, bon, il est évident, il y a une éthique du métier qui veut qu'on ne rapporte jamais le contenu de ce qu'on a traduit. On ne rapporte jamais. Une interprète qui rapporte ses mémoires, bon, c'est une mauvaise interprète. On ne fait pas ça. Et quand on enfreint cette loi, il ne faut pas s'étonner qu'on n'ait plus sollicité.
Une petite anecdote sur le président Havel, je crois que c'était peut-être juste avant ou juste après la partition de la Tchécoslovaquie.
C'était beaucoup plus tard, mais c'était un journaliste qui était venu l'interviewer et puis lui avait posé une question sur Mečiar. Et M. Havel a répondu en tchèque que M. Mečiar souffrait de stihomame. Stihomame, c'est un terme en tchèque, c'est un terme pas latin, pas technique, pour la paranoïa, c'est-à-dire la folie des persécutions, la manie des persécutions. Et bon, j'ai traduit comme M. Mečiar et parano. Bon, j'ai voulu bien faire, mais je crois que c'est exactement ça. Sur le plan stylistique aussi, pas tout à fait technique. Bon. Et le journaliste l'a interprété comme M. Mečiar est paranoïaque et ça a provoqué un scandale international. La Slovaquie a protesté, etc., etc. Et je dois dire que M. Havel m'a jamais reproché. Souvent, on dit que c'est de la faute de l'interprète, il a mal traduit. Jamais. Il ne m'a jamais dit un seul mot de reproche. Parce qu'il savait très bien qu'elle l'avait dit lui-même. Beaucoup d'autres hommes politiques tchèques auraient dit que ça avait été mal traduit. Monsieur Havel, jamais.
On a quand même l'image, souvent dans les médias, notamment les médias français, de Václav Havel, homme timide, un peu gauche. Mais parfois, on sent que ce n'est pas tout à fait de la vraie timidité.
Non. Il peut être charmant et plein d'esprit. Bon, ça, j'apprécie énormément son esprit.
Est-ce qu'on rigolait bien à l'époque au château?
Ah oui. C'était une excellente ambiance. Tout le monde l'aimait. Bon, il était entouré de personnes qui l'avaient choisi. Bon, alors, tout baigné. Une excellente ambiance. Allègre.
Vous étiez aussi, alors pendant les Havel, mais aussi longtemps après, au cœur des relations franco-tchèques, puisque je sais que vous ne pouvez pas révéler de secret d'État, est-ce que vous pouvez me livrer votre sentiment quand même sur le fait, est-ce que les Français et les Tchèques se comprennent d'après vous?
Je crois qu'ils se comprennent très bien. Il y a des atomes crochus entre les Français et les Tchèques parce qu'on a le même sens de l'humour, je dirais. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est moins florissant qu'il y a 10 ans environ.
On a quand même un peu l'impression, et c'est ce que les Tchèques disent à Prague, que les Français se comportent de manière arrogante. Est-ce que c'est un cliché?
Pas tout à fait, non. Les Français peuvent être très arrogants. Mais pas tous, hein. Bon, ben, il y a des personnes arrogantes parmi les Tchèques aussi. Mais je crois que les Français ont un petit peu la fibre coloniale. Parce que, un petit peu cette condescendance à l'égard de nous autres, citoyens de deuxième catégorie, qui avons vécu pendant si longtemps sous le joug communiste. Je trouve que c'est ça, un petit peu. Ça, je l'ai ressenti moi-même.
Je voudrais qu'on, puisque le temps presse, qu'on parle de l'évolution de votre métier. Est-ce que l'évolution du métier depuis ces dernières années vous paraît aller dans le bon sens?
J'appellerais ça le crépuscule du métier. Je crois que maintenant, on s'approche de la fin du métier, parce qu'il restera quelques organisations internationales qui recruteront encore des interprètes, mais l'anglais risque de devenir lingua franca de l'Europe. Le mauvais anglais, pas le bon anglais, mais celui qu'on baragouine, hein, bon. Et tout le monde apprend maintenant des langues à droite et à gauche. Je ne pense pas qu'il y ait... Si j'étais jeune aujourd'hui, je ne choisirais plus ce métier qui m'a permis de vivre des moments fabuleux. Mais je choisirais un autre métier, un vrai. Parce que là, ici, vous... Comment dire? Vous interprétez les idées des autres, vous n'avez jamais le droit d'exprimer les vôtres. C'est un peu frustrant, je dois dire. Parce que souvent, j'ai eu envie de dire ce que je pensais, et je n'avais pas le droit.
Alors, dernière question, Zuzana Tomanova, si vous deviez choisir un autre métier aujourd'hui, vous feriez quoi?
Criminaliste. Ou pédiatre. Ou architecte des jardins. Voilà, trois métiers qui me plaisent autant l'un que l'autre.
Merci beaucoup.
C'est la fin du programme de Radio Prague en français. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention.